Chapitre 3. Winston rêvait de sa mère. Il devait, pensait-il, avoir 10 ou 11 ans lorsque sa mère avait disparu. C'était une femme grande, sculpturale, plutôt silencieuse, aux mouvements lents et aux magnifiques cheveux blonds. Il se souvient plus vaguement de son père comme sombre et mince, toujours habillé en noir. Winston se souvenait surtout des semelles très fines des chaussures de son père, et qu'il portait des lunettes. Tous deux doivent manifestement avoir été engloutis dans une des premières grandes purges des années 50. À ce moment du rêve, sa mère était assise dans un endroit profond, en dessous de lui, avec sa jeune sœur dans les bras. Il ne se souvenait pas du tout de sa sœur, sauf comme un petit et faible bébé, toujours silencieux, avec de grands yeux attentifs. Toutes les deux le regardaient. Elle se trouvait dans un endroit souterrain. Le fond d'un puits, par exemple, ou une tombe très profonde, mais c'était un endroit qui, déjà bien en dessous de lui, continuait à descendre. Elles étaient dans le salon d'un navire en train de couler, en le regardant à travers l'obscurité de l'eau. Il y avait encore de l'air dans le salon. Ils pouvaient encore se voir mutuellement, mais pendant tout ce temps, elle s'abîmait dans les eaux vertes qui, dans un moment, les feraient disparaître à jamais. Il était dehors dans la lumière et à l'air, pendant qu'elles étaient aspirées vers la mort. Et elles étaient en bas, parce qu'il était en haut. Il le savait, et elle le savait, et il pouvait le lire sur leur visage. Il n'y avait aucun reproche, ni sur leur visage, ni dans leur cœur, seulement le fait de savoir qu'elle devait mourir pour qu'il puisse rester en vie, et que cela faisait partie de l'ordre inévitable des choses. Il ne pouvait pas se souvenir de ce qui s'était passé, mais il savait, dans son rêve, que d'une certaine manière, sa mère et sa sœur avaient sacrifié leur vie pour sauver la sienne. C'était l'un de ces rêves qui, tout en conservant un univers onirique caractéristique, sont un prolongement de la vie intellectuelle, et dans lesquels on prend conscience de faits et d'idées qui semblent encore nouveaux et précieux une fois que l'on est éveillé. La chose qui frappa soudain Winston est que la mort de sa mère, près de 30 ans en arrière, avait été tragique et douloureuse. Ce sentiment aujourd'hui n'était plus possible. Il venait de réaliser que la tragédie appartenait aux temps anciens, à une époque où il y avait encore une vie privée, de l'amour et de l'amitié, et lorsque les membres d'une famille se soutenaient, il n'avait pas besoin d'en connaître la raison. La mémoire de sa mère lui a brisé le cœur parce qu'elle était morte en l'aimant, alors qu'il était trop jeune et égoïste pour l'aimer en retour, et parce que d'une certaine manière, il ne se souvenait pas comment elle s'était sacrifiée au nom d'une conception personnelle et inaltérable de la loyauté. De telles choses, il l'avait vu, ne pouvaient plus se produire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y avait la peur, la haine et la douleur, mais pas de dignité dans l'émotion, pas de profondeur ni de complexité dans les chagrins. Tout cela, il semblait le lire dans les grands yeux de sa mère et de sa sœur, le regardant à travers le verre de l'eau, à des centaines de brasses et toujours en train de couler. Soudain, il se retrouva sur un gazon ras et élastique par une soirée d'été où les rayons obliques du soleil dorent le sol. Le paysage qu'il regardait revenait si souvent dans ses rêves qu'il n'était jamais totalement certain de l'avoir vu dans le monde réel. Dans ses pensées au saut du lit, il l'appelait le pays doré. C'était un ancien pâturage mangé par des lapins avec un sentier qui le traverse et une taupinière ici et là. Dans la haie dévastée de l'autre côté du champ, les branches des ormes se balançaient très légèrement dans la brise. Leurs feuilles formaient une masse si dense que l'on aurait dit une chevelure féminine. Quelque part à portée de main, pourtant cachée des regards, il y avait un ruisseau clair au courant léger où les nymphes nageaient dans des bassins abrités par l'ombre des saules. La fille aux cheveux noirs s'approchait de Winston en traversant le pâturage. D'un seul geste, elle arracha ses vêtements et les jeta avec dédain. Son corps était blanc et lisse, mais elle ne suscitait aucun désir en lui. En fait, il la regardait à peine. Ce qu'admirait Winston à cet instant, c'était la gestuelle avec laquelle elle avait arraché ses vêtements. Avec sa grâce et son insouciance, elle semblait annihiler toute une culture, tout un système de la pensée, comme si Big Brother, le parti et la police de la pensée pouvaient être emportés dans le néant par un seul mouvement splendide du bras. Cela aussi était un geste appartenant à l'époque ancienne. Winston s'est réveillé avec le mot « Shakespeare » sur les lèvres. Le télécran émettait un sifflement qui déchirait les tympans. La note perdura 30 secondes. Il n'était pas encore 7h15, l'heure de se lever pour les employés du bureau. Winston s'arracha du lit, nu, car un membre du parti extérieur ne recevait que 3000 coupons de vêtements chaque année, et un pyjama en valait 600. Il saisit un débardeur miteux et un short qui était posé sur une chaise. Les exercices physiques commençaient dans 3 minutes. L'instant d'après, il fut pris d'une violente quinte de toux qui le saisissait tous les jours peu après son réveil. Il toussa tellement qu'il ne put reprendre son souffle qu'après s'être allongé sur le dos, en prenant une série de profondes respirations. Ses veines avaient gonflé sous l'effet de la toux, et l'ulcère variqueux avait commencé à le démanger. « Le groupe des 30 à 40 !» poussa une voix perçante et féminine. « Groupe de 30 à 40 !»« Prenez place, s'il vous plaît, 30 à 40 !» Winston s'est fait remarquer devant le télécran, sur lequel l'image d'une femme jeune, maigre mais musclée, vêtue de sa tunique et de ses chaussures de sport, était déjà apparue. « Flexion et extension des bras !» dit-elle en cadence. « En rythme, avec moi, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, camarades, mettez-y un peu de vie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La douleur causée par la quinte de toux n'avait pas tout à fait chassé de l'esprit de Winston l'impression faite par son rêve, et les mouvements en rythme l'ont même quelque peu ravivé. Alors qu'il tirait mécaniquement sur ses bras d'avant en arrière en portant sur son visage l'expression d'un plaisir sinistre qui était considéré comme approprié pendant les exercices physiques, il luttait pour se replonger dans la période vague de sa petite enfance. C'était extraordinairement difficile. Au-delà des années 50, tout s'est effacé. Lorsque vous n'avez pas de repères externes auxquels vous pouvez vous référer, même le parcours de votre propre vie perd de sa netteté. Vous vous souvenez d'événements énormes qui ne sont probablement pas arrivés. Vous vous souvenez de détails, d'incidents sans pouvoir retrouver leur atmosphère. Et il y a de longues périodes vides auxquelles vous ne pouvez rien associer. Tout était différent à l'époque. Même les noms des pays et leur forme sur la carte étaient différents. La piste d'atterrissage numéro 1, par exemple, n'existait pas à l'époque. On l'appelait l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, bien que Londres, il en était assez certain, ait toujours été appelé Londres. Winston ne pouvait pas se souvenir avec certitude d'une époque où son pays n'avait pas été en guerre. Mais il était évident qu'il a connu une période de paix assez longue dans son enfance, car l'un de ses premiers souvenirs est celui d'un raid aérien qui semblait prendre tout le monde par surprise. Peut-être était-ce l'époque où la bombe atomique était tombée sur Colchester. Il ne se souvenait pas du raid lui-même, mais il se souvenait de la main de son père serrant la sienne alors qu'il se précipitait en bas, tout en bas, dans un endroit profond au centre de la Terre, descendant encore et encore sur un escalier en colimaçon qui résonnait sous ses pieds et ses petites jambes fatiguées finirent par ne plus le porter. Ils durent s'arrêter et se reposer. Sa mère, lente et distraite, les suivait loin derrière eux. Elle portait sa petite sœur, ou peut-être n'était-ce qu'un paquet de couvertures qu'elle portait. Il n'était pas certain que sa sœur était née à cette époque. Enfin, ils avaient émergé dans un lieu bruyant et bondé dont il avait réalisé qu'il était une station de métro. Il y avait des gens assis partout sur le sol pavé, D'autres personnes, serrées les unes contre les autres, étaient assises sur des couchettes en métal, les unes au-dessus des autres. Winston, sa mère et son père se sont trouvés une place sur le sol. Et tout près, un couple de vieillards était assis ensemble sur une couchette. Le vieil homme portait un costume sombre assez élégant et une casquette en tissu noir portée en arrière et qui laissait apparaître des cheveux très blancs. Son visage était écarlate et ses yeux étaient bleus et pleins de larmes. Il semblait suer du gin, et on aurait pu imaginer que les larmes coulant de ses yeux étaient du gin pur. Mais bien que légèrement ivre, il souffrait également d'un chagrin sincère et insupportable. Avec son instinct d'enfant, Winston comprit que quelque chose de terrible, quelque chose plus qu'impardonnable et irréversible, venait d'arriver. Il semblait également pour lui qu'il savait ce que c'était. Quelqu'un que le vieil homme aimait, une petite fille peut-être, avait été tué. En permanence, le vieil homme ne cessait de répéter « On n'aurait pas dû leur faire confiance !»« Je l'ai dit, maman, n'est-ce pas ? C'est ce qui arrive quand on leur fait confiance. C'est ce que je dis depuis le début. On n'aurait pas dû faire confiance aux bougres. » Mais à quel bougre il n'aurait pas dû faire confiance ? Winston ne pouvait plus s'en souvenir. Depuis cette époque, la guerre n'avait jamais cessé, bien qu'à proprement parler, ce n'était pas toujours la même guerre. Pendant plusieurs mois de son enfance, il régnait une confusion dans Londres. Il se souvenait très bien de certains combats de rue dans la ville même. Mais retracer l'histoire de toute cette période, pour dire qui se battait contre qui et à un moment donné, aurait été tout à fait impossible, puisque aucune trace écrite, aucun mot parlé ne mentionne autre chose que le présent. Actuellement, par exemple, en 1984, si c'était en 1984, l'Océanie, alliée avec l'Estasia, était en guerre contre l'Eurasia. Il n'avait jamais été admis, dans aucune déclaration publique ou privée, que les trois puissances avaient connu des alliances différentes. En fait, comme Winston le savait bien, il y avait seulement 4 ans que l'Océanie était en guerre avec l'Estasia et alliée avec l'Eurasia. Mais ce n'était qu'un fragment de connaissances furtives qu'il avait retenu par hasard, car il ne pouvait pas correctement contrôler sa mémoire. Officiellement, le changement de partenaire n'avait jamais eu lieu. L'Océanie était en guerre avec l'Eurasia. L'Océanie a donc toujours été en guerre avec l'Eurasia. L'ennemi du moment représentait toujours le mal absolu, et il s'ensuivait que tout accord passé ou futur avec lui était impossible. La chose effrayante, se dit-il pour la 10 000e fois en forçant dans la douleur ses épaules vers l'arrière, avec les mains sur les hanches, il effectuait une rotation du corps autour de la taille, un exercice qui était censé être bon pour les muscles du dos. Ce qui est effrayant, c'est que tout cela pourrait être vrai. Si le parti pouvait mettre la main sur le passé et dire de tel ou tel événement « il ne s'est jamais produit », c'était sûrement plus terrifiant que la simple torture ou que la mort. Le parti a déclaré que l'Océanie n'avait jamais fait d'alliance avec l'Eurasia. Lui, Winston Smith, savait que l'Océanie avait été l'allié de l'Eurasia seulement 4 ans plus tôt. Mais où cette connaissance existait-elle ? Seulement dans sa propre conscience, qui doit de toute façon être bientôt anéantie. Et si tous les autres acceptaient le mensonge imposé par le parti ? Si tous les documents se ressemblent, alors le mensonge devient l'histoire et la vérité. « Qui contrôle le passé ?» proclamait le slogan du parti. « Contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent ? Contrôle le passé. » Et pourtant le passé, bien que par nature modifiable, n'a jamais été altéré. Ce qui était vrai maintenant, l'était pour l'éternité. C'était assez simple. Tout ce qui s'imposait était une série ininterrompue de victoires sur votre propre mémoire. Le contrôle de la réalité, on l'appelait dans le langage des actualités, double pensée. « Du calme !» aboyait l'instructrice un peu plus affable. Winston plongea ses bras sur les côtés et remplit lentement ses poumons avec de l'air. Son esprit a glissé dans le monde labyrinthique de la double pensée. Savoir et ne pas savoir, pour être conscient de la vérité absolue, tout en racontant des mensonges soigneusement construits. Pour avoir simultanément deux opinions qui se sont annulées, sachant qu'elles étaient contradictoires, et croyant en ces deux éléments, d'utiliser la logique contre la logique, de répudier la moralité tout en la revendiquant, de croire que la démocratie était impossible et que le parti était le gardien de la démocratie, pour oublier tout ce qui était nécessaire d'oublier, puis de le faire revenir en mémoire au moment où c'était nécessaire, puis rapidement oublier, et surtout, d'appliquer le même processus au processus lui-même. C'était la subtilité ultime, consciemment induire l'inconscience, puis une fois de plus devenir inconscient de l'acte d'hypnose que vous veniez de réaliser. Même pour comprendre le mot double pensée, il fallait l'utilisation de la double réflexion. L'instructrice avait à nouveau attiré l'attention. Et voyons maintenant lequel d'entre nous peut toucher ses orteils, dit-elle avec enthousiasme. En partant des hanches, s'il vous plaît, camarade. 1, 2. 1, 2. Winston détestait cet exercice, qui lui donnait des douleurs des talons jusqu'aux fesses et souvent lui provoquait une nouvelle crise de toux. Un sentiment partagé résultait de ses méditations. Le passé, réfléchissait-il. Il n'a pas seulement été modifié, il a été détruit. Comment pourriez-vous établir le fait même le plus évident lorsqu'il n'existe aucune preuve en dehors de votre propre mémoire ? Il essaya de se souvenir en quelle année il avait entendu parler pour la première fois de Big Brother. Il pensait que cela devait être durant les années 60, mais il lui était impossible d'en être certain. Selon la version officielle du parti, bien sûr, Big Brother figura comme le leader et le gardien de la révolution depuis ses origines. Ses exploits ont été progressivement repoussés dans le temps jusqu'au monde fabuleux des années 40 et 30, lorsque les capitalistes, avec leurs étranges chapeaux cylindriques, parcouraient encore les rues de Londres dans de grandes voitures à moteur ou des voitures à cheval rutilantes avec des côtés vitrés. On ne savait pas à quel point cette légende était vraie. Et combien de choses ont été inventées. Winston ne pouvait même pas se rappeler à quelle date le parti lui-même avait vu le jour. Il ne croyait pas avoir déjà entendu le mot « Hangsok » avant 1960, mais il était possible qu'il l'eût déjà entendu sous sa forme ancienne. « Socialisme anglais ». Tout était embrouillé. Parfois, en effet, on pouvait mettre le doigt sur un mensonge authentique. Par exemple, ce n'était pas vrai, comme le prétendaient les livres d'histoire du parti, que le parti avait inventé les avions. Il se souvenait des avions depuis sa plus tendre enfance. Mais cela ne pouvait rien prouver. Le souvenir n'était pas une preuve. Une seule fois dans sa vie, il a tenu entre ses mains une preuve documentaire incontestable de la falsification d'un fait historique. Et à cette occasion, « Smith !» cria la voix acariâtre du télécran. « 6079 Smith W. »« Oui, toi, penche-toi plus bas, s'il te plaît. Tu peux faire mieux que cela. Tu n'essayes pas. Plus bas, s'il te plaît. C'est mieux, camarade. Maintenant, mettez-vous à l'aise, toute l'équipe, et regardez-moi. » Une sueur chaude s'était soudainement répandu sur tout le corps de Winston. Son visage était resté complètement impénétrable. Ne montrait jamais de consternation, ne montrait jamais de ressentiment. Un seul clignotement des yeux pourrait vous trahir. Il se tenait debout en regardant l'instructrice lever les bras au-dessus de sa tête. On ne pouvait pas dire avec grâce, mais avec précision et efficacité. Elle s'est penchée et a replié la première phalange de ses doigts sous ses orteils. « Là, camarade, c'est comme ça que je veux vous voir faire. Regardez-moi encore. J'ai 39 ans et j'ai eu 4 enfants. Maintenant, regardez. » Elle s'est penchée à nouveau. « Tu vois, Mes genoux ne sont pas fléchis. Vous pouvez tous le faire si vous le voulez, a-t-elle ajouté en se redressant. Toute personne de moins de 45 ans est parfaitement capable de toucher ses orteils. Nous n'avons pas tous le privilège de nous battre en première ligne, mais au moins nous pouvons tous nous maintenir en forme. Souvenez-vous de nos garçons sur le front de Malabar et les marins dans les forteresses flottantes. Pensez seulement à ce qu'ils doivent supporter. Maintenant essayez, à nouveau. C'est mieux, camarade. C'est beaucoup mieux, a-t-elle ajouté. Winston, avec un violent effort, réussit à toucher ses orteils avec les genoux non pliés pour la première fois depuis plusieurs années.